Bonjour à toutes et à tous, les déboires d'une ruthénoise qui ne veut pas du compteur Linky. Et puis chat alors avec un éleveur aveyronnais d'American Curl, c'est le menu du mag aujourd'hui. Juste après Jet, je serai donc au téléphone avec Anne-Laure qui est menacée d'une coupure d'électricité dès mardi prochain.
Take my photo off the wall if it just won't sing for you. All that's left is gone away, and there's nothing there for you to prove. Oh, look what you've done. You've made a fool of everyone. Oh, well, it seemed like such fun.
CFM. CFM Rodez.
Bonjour Anne-Laure.
Bonjour David.
Anne-Laure Portoni, vous êtes ruthénoise, vous habitez le centre-ville et vous êtes un petit peu paniquée, très inquiète surtout. Vous avez un souci d'électricité, mais ce n'est pas une panne.
Non, tout à fait, ce n'est pas une panne. Je refuse le Linky et Enedis me fait un chantage. Si je n'accepte pas le Linky, il ne me raccorde pas. Et depuis qu'on me l'a posé au mois de juin, il n'est pas raccordé. L'électricien m'a raccordé gentiment sur les parties communes. Voilà. Et là, le syndic commence à tiquer et trouve que ce n'est plus acceptable et qu'à la fin du mois, donc, l'électricien me débranche les parties communes.
D'accord. Donc, vous êtes menacé de ne plus avoir d'électricité, si j'ai bien compris. Depuis quelques temps, l'électricité chez vous, c'est les mêmes habitants de l'immeuble qui vont payer la facture, hein, si je comprends bien,
tout
c'est ça
hein. Oui.
Et
oui.
Le départ de tout ça, c'est que vous avez un compteur Linky, vous n'en vouliez pas. Et Total, qu'est-ce qui se passe alors? Je ne comprends pas.
Eh ben, en fait, l'ancien propriétaire de l'immeuble, qui a acheté l'immeuble, a ensuite vendu l'immeuble et lot par lot,
ouais,
et a demandé à l'électricien qui s'occupe de l'immeuble de venir me raccorder, de poser le Linky. Donc, c'est à sa demande. L'électricien, qui est à la fois aussi prestataire et sous-traitant Enedis, est venu me le poser au mois de juin. J'avais dit à l'ancien propriétaire d'immeuble que je n'en voulais pas, qu'il m'a dit que c'était obligatoire. Donc, l'électricien est venu. La mort dans l'âme, il me l'a posé, mais il ne me l'a pas raccordé parce qu'on attendait le consuel, qui est un certificat de conformité de l'installation électrique. Je me suis bataillée avec lui parce que je ne le voulais pas. Il m'a dit qu'il était obligatoire. Et entre-temps, je me suis aperçue qu'il n'était pas obligatoire. Alors, sachant que moi, j'ai déjà un compteur propre. C'est un compteur mécanique, un vieux compteur bleu, mécanique, avec le disque qui tourne. Et en fait, il est divisionnaire. C'est-à-dire que moi, j'ai un sous-compteur et j'étais alimentée jusqu'à présent avec l'électricité de mon ancienne propriétaire. Mon ancienne propriétaire donc a vendu l'immeuble et l'appartement a été racheté par un monsieur. Lui, il a fait le dégroupage de l'électricité. Il a son propre Linky. Et c'est pour ça que maintenant, je suis branchée sur les parties communes. Donc, en fait, je me retrouve avec deux compteurs. Mon compteur mécanique, qui est certes divisionnaire, et un compteur Linky qui est posé mais pas raccordé. Donc ça, déjà, c'est totalement illégal d'avoir deux compteurs.
Mmh. Et alors vous, en plus, donc, vous ne souhaitez pas du tout que le Linky soit connecté, hein ?
Tout à fait.
Vous souhaitez conserver l'électricité, mais la vôtre avec votre propre facture, et d'avoir qu'on l'on mette en service l'ancien compteur, quoi, c'est ça ?
C'est ce que je veux. Et en fait, l'électricien, on s'est encore rebataillé un peu la semaine dernière. Et j'ai même eu une personne d'un collectif anti-Linky qui suit mon affaire de près, qui l'a même appelé et il lui a dit que ce n'était pas possible parce que, en fait, mon compteur mécanique est à l'autre bout dans un placard, à l'autre bout du Linky et du disjoncteur qu'il m'a posé. Et on ne peut pas intervenir sur la colonne montante parce que c'est propre à Enedis. Donc, du coup, tant pis, mon compteur mécanique, on lâche l'affaire, il ne pourra pas être raccordé. Alors, c'était quand même tout simple, il y avait juste à enlever le côté divisionnaire.
Ouais.
Et je demande juste à ce qu'on me branche un compteur électronique CBE non communicant.
Et là, donc, pour le moment, alors, je ne sais pas qui s'occupe de l'installation ou de ce compteur non communicant, mais on vous donne des réponses pour venir l'installer, enfin, le brancher, le poser, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Ah bah non, c'est chacun se renvoie la balle entre EDF et Enedis. Enedis me fait du chantage en me disant que pour un raccordement neuf, parce que c'est un raccordement neuf, étant donné que je n'avais pas de ligne de facture propre à mon nom, parce que c'était à mon ancienne proprio, donc là c'est considéré comme un raccordement neuf, et qui dit raccordement neuf dit Linky. Déjà ils m'ont dit que Linky est obligatoire, et d'autant plus avec pour un raccordement neuf. Donc ils me font du chantage, que si je n'accepte pas Linky, bah je n'aurai pas d'électricité.
Alors bon, vous laissez pas faire, j'imagine. Alors moi, je suis pas spécialiste en droit, hein, mais enfin, j'imagine que vous avez demandé un petit peu d'aide, d'informations aussi autour de vous.
Partout. Je fais partie de deux collectifs de Stop Linky. Je me suis renseignée sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Et en fait, le Linky n'est pas obligatoire. Il n'y a aucune loi qui l'oblige. C'est juste une direction de l'Union européenne. Et en fait, une pause forcée équivaut à une infraction selon le code pénal. Et alors, j'ai pas tous les textes en tête, enfin tous les articles en tête. En tout cas, une pause forcée est une infraction. Et pareil, une interdiction n'a pas obligé les gens à avoir un objet connecté. Or, le Linky est un objet connecté. Et en fait, non, c'est le Linky n'est pas du tout obligatoire. Même le PDG d'Enedis l'a dit in fine. Il y a eu un cas de jurisprudence, qui fait jurisprudence. Il y a eu un procès à la Cour d'appel de Bordeaux en 2020 et qui a donné raison aux particuliers en n'acceptant pas la pose de son Linky. Alors certes, c'est différent parce que lui, il avait déjà un CBE et qu'il fallait le changer.
Ouais.
Moi, en tant que raccordement neuf, ils me disent que c'est obligatoire, mais ça revient exactement au même. On n'a pas obligé le particulier à avoir un compteur Linky. Il n'est absolument pas obligatoire, ce compteur.
Bon, alors du coup, on vous quand même menace, entre guillemets, ou pas, de vous couper l'électricité. Ça, je ne suis pas spécialiste en droit, mais ça ne me semble pas spécialement légal non plus.
Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de couper l'électricité. Déjà parce que c'est, selon le code de l'énergie, c'est un bien de première nécessité.
Ouais.
Et aussi, il ne doit y avoir aucune discrimination et en toute transparence. En plus, là, nous sommes en plein hiver, donc comment vous dire que si je n'ai pas l'électricité en plein hiver, c'est juste pas possible. Voilà.
C'est quoi l'issue, là ? Quelle issue vous entrevoyez ? Parce que ça me semble un peu bloqué, cette affaire.
C'est totalement bloqué, puis même, c'est aussi... c'est un côté politique, parce que c'est l'État qui impose le Linky. Si on ne l'accepte pas, on est surtaxé de 8 euros quelque chose tous les deux mois par rapport à la relève d'indice, alors que déjà le compteur lui fait lui-même, donc en fait on est doublement taxé.
Quand est-ce qu'on doit vous couper l'électricité théoriquement ?
Là, au 31 janvier.
Ah oui, dans quelques jours.
C'est ça. Ça fait quand même 3 semaines que je suis... ça fait déjà des mois et des mois que je me bataille, mais là, depuis 3 semaines, c'est tous les jours, j'appelle Enedis, j'appelle tout le monde pour régler ce problème.
Alors, votre cas, il est un petit peu particulier. Vous nous avez expliqué que vous étiez locataire, puis propriétaire, que les compteurs étaient collectifs, puis maintenant individuels. Mais enfin bon, c'est pas non plus le truc incroyable, quoi. Il n'y a pas des cas similaires en France quand j'ai eu lieu. Vous n'avez pas...
Alors, si, parce que il y a plein de gens qui refusent le Linky, qui ont eu gain de cause, notamment parce que voilà, au niveau ondes, moi, comme beaucoup, on est sensible aux ondes. Et puis c'est pas du tout sécure parce que ça prend feu. Hein. Moi j'ai des amis, leur appartement, leur maison ont pris feu à cause du Linky. Et dès que je vais chez quelqu'un qui a le Linky, parce que la plupart en a, et ben ça me déclenche des migraines et des acouphènes. Donc ça c'est une horreur. Et puis non, je veux pas de ça chez moi. Ça dégage des ondes. C'est un objet connecté de surveillance. L'État n'a pas à savoir ce que je consomme. Si je prends une douche à 19 degrés ou 30 degrés, enfin voilà. Les personnes à savoir, à connaître mes données. Surtout qu'en plus, les données personnelles sont du Linky sont revendues à des tiers, à des fournisseurs, un peu partout.
Donc là, ce que vous espérez, alors il y a eu mon coup de fil, mais quand ça a sonné, vous avez peut-être dit, tiens, c'est EDF ou un prestataire qui m'a appelé pour une bonne nouvelle.
C'est ça, tout à fait. Alors, j'ai tellement fait des pieds et des mains. Vendredi, j'ai un rendez-vous... un technicien Enedis qui vient chez moi, mais j'ai demandé à Enedis qui vienne avec un compteur CBE, et là la personne m'a dit ah ben non, ça sera pas un CBE, ça sera le Linky. J'ai écouté, on va arrêter la propagande parce que là c'est vraiment de la manipulation. Moi, si vendredi je n'ai pas un technicien qui me branche avec un CBE, je porte plainte contre vous pour chantage abusif, intimidation et abus de faiblesse.
Bon, bah, écoutez, on va voir si ça fait de l'effet.
J'espère pas en arriver jusque-là, mais oui, il y a. Et quand Enedis me dit, mais il n'y a pas de compteur CBE, je dis, non, c'est faux, vous en enlevez tous les jours pour pouvoir mettre des Linky. Il me dit, oui, mais si on enlève les CBE, c'est qu'ils sont dysfonctionnels. Je dis, non, ils ne sont pas dysfonctionnels et on peut en trouver d'occasion, et même un CBE d'occasion convient tout à fait. Donc c'est vraiment de la mauvaise foi de la part d'Enedis.
Bon, bah on espère que ça va un petit peu s'éclaircir pour vous. Alors, le rendez-vous c'est vendredi, je vous propose de vous rappeler lundi, dans une semaine. Peut-être,
oui,
pour avoir des nouvelles, en espérant qu'elles soient
d'accord.
Bonnes.
C'est gentil, merci David, oui, c'est très gentil.
Merci beaucoup Anne-Laure.
Merci, bonne journée.
À suivre dans le mag sur CFM Rhodesia, alors avec Emeline, comportementaliste félin, comme tous les vendredis. Cette semaine, Emeline a invité Christian, qui élève des American Curl en Aveyron. Mais d'abord, Alanis Morissette, la musique sur CFM Rhodesia.
You weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much.
especially to members of your family. We best keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, 'cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that weight and you keep your firm body.
CFM Rodez, le mag.
Bonjour, Emmeline Blanc-Gauthier, comportementaliste félin. Bienvenue dans Chat alors sur CFM Radio, comme chaque semaine, pour parler de notre petit félin préféré, le chat. Cette semaine, j'ai plaisir à recevoir Christian Couder, qui est un éleveur passionné d'une race de chat qu'on connaît peu, qui s'appelle l'American Curl. Bonjour Christian.
Bonjour Emmeline.
Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce chat que tu élèves, qui s'appelle l'American Curl?
Eh bien, voilà, l'American Curl, donc il faut savoir déjà que c'est une race de chat très récente, puisque le premier chat a été découvert en 1981 aux États-Unis. Et donc, ce chat a la particularité, où on peut dire, d'avoir les oreilles tournées vers l'arrière, donc bouclées, d'où le nom de Curl. Et ce chat, qui a été recueilli par une femme américaine, il a mis au monde des bébés. Et ces chatons, ils avaient tous les oreilles curlées. Et donc, il s'est avéré que ce gène, qui est un gène récessif, donc qui revient à chaque fois, a permis de faire naître cette race qui a été reconnue en 1985 par la TICA, qui est un organisme de jugement de chats américain, et en France en suivant dans les années ultérieures. Voilà. Et donc, ce chat, après, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, que c'est un chat, comme beaucoup disent souvent, c'est un chat chien, c'est-à-dire très proche de l'homme. C'est un chat rustique, puisque le croisement du départ, il y avait du chat de gouttière. Donc, pas de maladie connue, parce qu'il n'a pas été élevé, il n'a pas été manipulé par l'homme. Et ensuite, c'est un chat donc facile à vivre, sans entretien, comme je l'ai dit tout à l'heure, rustique, qui aime bien être sur les genoux. Pour moi, c'est presque le chat idéal, quoi.
Parce qu'il y a très peu de problèmes de santé par rapport à une autre race que tu as élevée avant.
Voilà, donc nous, on est éleveur depuis 2015. On a élevé des persans. Alors, c'est un chat adorable, mais comme les éleveurs ont voulu tout le temps qu'ils aient les yeux plus grands, les oreilles plus petites. Il y a eu des manipulations génétiques, ce qui a fait que ce chat, il y a eu une sorte de dégénérescence. Ça me parlait des fois de la dentition qui n'était pas alignée, des yeux qui étaient trop gros et alors que des fois ils faisaient que pleurer, du nez trop petit et donc ils avaient des problèmes de respiration, etc. J'en passe d'autres, jusqu'à aller pour une chatte persane qui ne savait même plus élever sa progéniture. Donc ça devenait catastrophique. Alors un beau jour, mon épouse, on s'est dit non, voilà, on peut pas continuer. C'est quand on veut le bonheur animal, ben là, c'est pas possible. Et du coup, on a cherché une autre race de chat parce que moi, depuis tout petit, j'adore les chats. Je suis né à la campagne, j'aimais voir les chats boire le lait des vaches dans le seau de mon père quand il traillait les vaches. Et donc, on a cherché et puis on est tombé sur cette race, l'American Curl, très peu répandue en France. Actuellement, on doit être au moins de 10 éleveurs. Et on s'est dit, ça correspondait, ça matchait dans tous les sens pour nous deux, pour nos goûts et nos couleurs, toutes les couleurs possibles et tout. Et dit, on va essayer. C'est comme ça qu'on a cherché nos premiers reproducteurs American Curl.
Tu les as achetés où, tes premiers reproducteurs?
Alors, on a commencé par chercher un mâle qu'on a toujours, qui s'appelle Oops. Alors, Oops, l'élevage, c'est les cosmopolitains, ils viennent de Bretagne. Alors, lui, il nous a plu parce que sa couleur, c'est chocolat. Mmh. Et il y a très peu de chats aux couleurs chocolat. Et il est chocolat blotchette tabby, c'est-à-dire tabby, il a un M sur la tête avec des dessins. Et blotchette, ça veut dire qu'il a des gros ronds sur le corps. On a commencé par prendre Oops. Et après, on a cherché une femelle en Dordogne. C'est Osaka qui est arrivée. Osaka qui est couleur pointe. Alors, c'est-à-dire plutôt genre un peu comme les Siamois, avec des couleurs blancs, des poils un peu noirs, des yeux bleus. Et donc, c'était notre premier couple d'American Curl.
Ça fait beaucoup de petits, une portée dans une portée? Il y a beaucoup
alors,
de petits.
Alors, par rapport à la race qu'on connaissait, les persans, quand ils en faisaient, ils pouvaient en faire 4-5, mais ils en faisaient 2-3. Et là, la première portée qu'on a eue entre Oops et Osaka, ça a été 7 chatons.
7 chatons, sans de difficulté à la mise bas.
Alors ça, c'était que du bonheur, hein, parce que là, on retrouve l'instinct du chat, c'est-à-dire elle met bas toute seule, elle s'occupe de ses bébés toute seule, c'est-à-dire elle va manger ses placentas, gérer sa portée, les allaiter sans problème, ensuite les amener vers la nourriture solide et tout, petit à petit, comme on ferait des chats de gouttière dans la rue.
Oui.
C'est que du bonheur.
Et ce sont des chats qui sont très présents, ils vivent tous avec toi, que ce soit les mâles et les femelles.
Oui.
Donc comment tu gères tout ça à l'intérieur de la maison?
Alors, nous, on a une grande maison, maintenant que nos enfants sont partis. On a un seul mâle. Alors déjà, ça simplifie un peu les choses. Et puis, on a 4 femelles reproductrices, donc pas stérilisées, et 3 American Curl, 2 femelles et un mâle, que l'on a stérilisées, qu'on a gardées de nos portées, parce qu'on aime les chats, parce qu'on aime cette race, et pour faire reconnaître cette race. En temps normal, eh bien, ça veut dire que, oups, le mâle il peut rester avec les femelles si elles ne sont pas en chaleur. Et puis, dès qu'elles sont en chaleur, eh bien, soit on isole les femelles, soit on isole Oops, ce qu'on ne tient pas trop parce qu'on veut qu'il aille où il veut aller, qu'il soit avec les femelles et tout. Alors, on a trouvé la solution maintenant. Une femelle, quand elle a fait une paire de portées, on la met au repos un petit peu. Et donc, on y met un implant pour la stériliser momentanément.
Hein. Un implant contraceptif.
Voilà, c'est ça. Et donc, cela permet de la mettre au repos pendant un an et demi. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, ça risque rien. Oups, il peut être avec les femelles qui portent cet implant.
Tu fais peu de portée, en fait. Tes femelles, elles en font combien dans leur vie?
Dans la vie, je ne sais pas, parce qu'on a des femelles, vous voyez, Oups, il a 4 ans, donc il est jeune. Moi, je considère, et puis de toute façon, le louf, il demande à ce qu'il n'y ait pas plus de 2 portées sur 3 années pour une femelle. Donc, nous, considérant que le mot éleveur me gêne un peu, on est éleveur parce qu'on doit être éleveur, avoir les reconnaissances au niveau papier et diplôme, mais on est des amoureux des chats. Moi, dans l'année, même avec 4 femelles, si je fais 3 portées, c'est le maximum. Quoi.
D'ailleurs, tu ne te fais pas d'argent sur le dos des animaux.
Alors déjà, il faut savoir que même si c'est une passion, ça coûte cher.
Oui.
Les vétérinaires, ils font pas cadeau. Il y a les vaccins, il faut amener les chatons, il faut les faire stériliser, il faut les faire pucer, identifier. Et quand il y a des problèmes, nous, on touche du bois. C'est, comme je dis tout à l'heure, cette race est vraiment formidable, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a les visites annuelles, il y a les engagements auprès du Louf, les diplômes, les certificats de naissance, et tout ça, donc on ne peut pas en vivre, ça c'est clair, donc c'est une passion avant tout, quoi.
Oui, surtout en faisant peu de portée, en ayant les animaux dans la maison, c'est vraiment un élevage familial et c'est par amour de la race et de l'animal.
Tout à fait,
qu'il y a une sélection des reproducteurs pour faire des petits et bien sûr bien les placer.
Voilà.
Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éleveurs que j'aime beaucoup, surtout en exposition féline, parce qu'ils ont cette côté passion qui me tient à cœur. Et voilà, je tiens à dire qu'ils ne font pas d'argent sur le dos des animaux, et ça, c'est ce qui me plaît aussi. Alors, tu aimes faire connaître la race. Il y a un club de race de l'American Curl.
Voilà, alors, donc, c'est l'AFA Curl.
Oui.
Dont la présidente, c'est celle qui nous avait vendu Oups, le premier chat, qui est en Bretagne. Donc ce club de race, on n'est pas très nombreux. Quand on va sur le site internet de la FA Curl, on voit qu'un éleveur de curl, on est moins de 10, hein, puisque de toute façon, tous les éleveurs de curl n'ont pas obligation d'adhérer à un club de race. Mais je trouve que c'est mieux, justement, pour communiquer entre nous, pour éviter les déboires s'il doit y en avoir, se donner des conseils et aussi aider à bien placer les chatons. Donc, la FA Curl, c'est notre club de race.
D'accord. Tu as un site internet ?
Oui, alors j'ai un site et une page Facebook. Donc, le site, c'est www.arc-en-ciel-sirou.fr. Et la page Facebook, pareil, si on tape chatterie arc-en-ciel-sirou, on nous trouve facilement, quoi.
Si vous ne retenez pas, vous tapez American Curl Nocelle, puisque tu es à côté de Nocelle, et on tombe facilement sur la page de Sophie et Christian et leur site internet qui présente les American Curl. Je vous invite à aller les voir. Moi, j'en avais jamais vu avant l'année dernière, avant de rencontrer ceux de Christian en exposition féline, et ils sont magnifiques, magnifiquement beaux. Alors, merci Christian de ta venue dans les studios de CFM. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique chat, alors sur CFM Radio. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Emeline Blanc-Gauthier, comportementaliste féline 12. Et je vous dis à bientôt.
À la semaine prochaine, Emeline, merci beaucoup. C'est la fin du MAG pour aujourd'hui. Très bonne fin de journée à toutes et à tous. Bon week-end, évidemment, et rendez-vous lundi, même heure, pour une nouvelle édition.